Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez Martino, Cube Radio.
Je pense que c'est clair pour tout le monde. Nous n'aurons pas un Noël normal. Donc, c'est sûr que M. Legault va reculer. Non seulement ça, mais il y a beaucoup de gens qui craignent qu'on paie un prix très cher en janvier. C'est le cas du Dr Simon-Pierre Landry. Dr Landry est médecin à l'urgence à Sainte-Agathe-des-Monts et aussi médecin de famille à Mont-Tremblant. Bonjour, Dr Landry.
Bonjour, M. Martineau.
Et non seulement vous craignez qu'on paie en janvier, mais vous dites, je sais que ça va être l'enfer en janvier.
Oui, un peu comme à chaque année. Cette année, c'est de savoir est-ce qu'on va perdre encore plus le contrôle que d'habitude. C'est un peu ça la question, mais c'est sûr que, bon, chaque année, janvier, février, c'est très difficile. Le système de santé au Québec, il est pas fait pour recevoir ce qu'on appelle des surges, tu sais, des augmentations massives, ben, ou des augmentations de gens dans le système. Et on le sait, ben, à chaque fois que cet arrivage-là arrive, ben, c'est comme ça vient rendre dysfonctionnelle finalement la machine qui est déjà mal huilée finalement.
Et ça veut dire que notre système, là, mettons, moi j'ai entendu que notre système, normalement, là, enlevons la pandémie, là, dans une période normale, fonctionne presque à pleine capacité. Là. On l'a étiré, notre système. Là. Alors, si on ajoute en plus une pandémie, parce qu'on regarde les cas d'hospitalisation, il n'y en a pas tant que ça. Et on se demande, mais comment ça se fait que ça commence déjà à craquer alors qu'il ne semble pas avoir une hausse fulgurante des cas d'hospitalisation?
Vous avez raison. Donc, normalement, en fait, je dirais, on fonctionne à surcapacité, certainement durant l'hiver. Et c'est toujours l'urgence qui écope parce que les cliniques médicales puis les autres départements dans les hôpitaux, eux, souvent, ils vont dire, ben nous, on continue à faire notre petit bonhomme de chemin. Puis là, ben le refoulement, finalement, il se fait dans les urgences. Donc, les urgences, ils débordent. Pourquoi? Ben ils débordent parce que c'est la seule place où est-ce que tu peux pas refuser des patients s'ils se présentent à toi puis qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Donc, vous avez raison. Le niveau de l'eau, je dis, il augmente, là. OK? Tranquillement, pas vite. On a plus de cas COVID qui rentrent. C'est pas un tsunami, là. Mmh. Si on regarde les taux d'hospitalisation, ça augmente tranquillement. Mais c'est sûr, mais le réseau en ce moment, alors qu'il normalement fonctionne à surcapacité, a moins de capacité que d'habitude. Je m'explique. Si tu as des employés qui sont malades,
ben oui,
parce que leurs enfants ont attrapé la COVID, tout ça, ben c'est des employés qui restent à la maison. Fait que vous avez, admettons, là, si on, à capacité, on est à 100%, ben dans beaucoup d'hôpitaux en ce moment, on fonctionne 90-80%. Fait que si vous êtes à 80% de ce que vous faites d'habitude, puis vous faites juste augmenter un petit peu la quantité de monde qui viennent vous voir, ben vous voyez le débalancement, puis ça refoule aux urgences.
Mais tout à fait.
Il y a moins de monde dans les urgences en ce moment que d'habitude à ce temps-ci de l'année. OK, mais les taux d'occupation sont très importants. Région métropolitaine, là, ça tourne autour de 120-130% en ce moment. Pourquoi? Ben parce que la capacité a diminué. Moi, quand je vois des patients, il faut que je vêtisse une jaquette, des gants, un masque. Ça veut dire que ça prend plus de temps à voir les patients. Il faut désinfecter les choses. C'est tout à fait normal qu'on fasse ça. Donc, notre capacité a diminué. Puis la quantité de monde qui se présente aux urgences a diminué un peu, mais pas assez pour compenser. Ben, là, le problème de surcapacité.
Et docteur Simon-Pierre Landry, je disais quelque chose hier et j'en revenais pas. Là. Je tombais en bas de ma chaise. Je disais qu'il y a encore plein de soignants qui n'ont pas de masque N95.
Oui, mais là-dessus, par exemple, moi, je travaille pas avec un N95 quand je vois des patients. Là. Je veux dire, j'étais à la clinique en ce moment, je porte un masque chirurgical. Quand j'étais à l'urgence, je porte un masque chirurgical la grande majorité du temps. On va porter des N95 quand on fait des interventions invasives. Donc, quand j'ai mis un tube dans la gorge d'un de mes patients, c'est très dangereux parce qu'il y a des aérosols. Si le patient est infecté avec la COVID, il peut avoir plein de virus qui vont se ramasser dans l'air. On porte des N95 à ce moment-là et l'hôpital nous fournit des N95. Donc, je comprends qu'il y a un jeu en ce moment. Il y a des syndicats qui prônent le N95 dans toutes les circonstances. Je vous dirais, présentement, la majorité des professionnels de la santé, moi, je manque pas d'équipement là, dans mon hôpital.
OK, vous avez pas besoin de ça au quotidien. OK, merci beaucoup. Puis, lorsque vous regardez là, les Québécois, est-ce que vous pensez, il y a eu un sondage, 60% des Québécois disent qu'ils comprennent l'urgence de la situation, qu'ils sont prêts à être extrêmement prudents dans le temps des fêtes et en faire moins que ce que le gouvernement nous permettait de faire. Est-ce que vous êtes, lorsque vous regardez les Québécois, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous nous trouvez responsables ou pas?
Ben la nature humaine est la nature humaine et je pense que le gouvernement peut émettre des recommandations, mais le gouvernement est quand même limité dans ce qu'il peut faire. Donc, vous avez raison de dire c'est des décisions, au final, qui sont un peu individuelles. Il y a des gens qui s'en foutent carrément et qu'on les appelle les super spreaders. Là. Ça veut dire ils deviennent infectés, puis eux, ils respectent pas les consignes, puis ils vont infecter une quantité vraiment importante de gens. Maintenant, est-ce que j'ai la solution à dire OK, on fait un confinement total, tout ça? Moi, je sais pas c'est quoi la réponse, la bonne façon finalement d'approcher les fêtes. Je pense que plus de prudence, c'est mieux que moins. Moi-même, là, je veux dire, avec ma conjointe, on a des grandes discussions parce qu'on a des arrière-grands-parents n'ont pas vu les nouvelles naissances cette année parce que, bon, mon troisième est né en pleine première vague.
Oh boy.
Et nous, on s'est assis, on a dit, ma sœur aussi a eu un enfant. Donc là, on s'est dit, OK, on aimerait beaucoup, là, à Noël, là, tu sais, nos cinq journées de congé, là, qui sont à peu près les seuls moments dans l'année où est-ce qu'on peut les voir, nos grands-parents, est-ce qu'on aimerait ça qu'ils rencontrent leurs arrière-petits-enfants? On sait pas combien qu'il leur reste à eux autres. Fait qu'on est face à ces choix-là, comme beaucoup de familles québécoises. Et là, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut les voir avec des masques, des gants? Tu sais, évidemment, on leur donnera pas la bise, puis on soupera peut-être pas avec eux. Mais c'est de voir, est-ce qu'il y a des arrangements qu'on peut prendre pour que tout le monde reste en sécurité, finalement, puis qu'on arrive quand même à briser l'isolement de certaines personnes qui se sentent très isolées en ce moment.
Et ça, c'est pas le gouvernement qui... Puis de toute façon, on le sait, les policiers rentreront pas dans chaque maison pour voir ce qu'on fait. Donc, c'est dans...
Et le gouvernement ne peut pas non plus prendre chacune des situations puis dire oui, toi t'as le droit,
ben
toi
oui.
T'as pas le droit. Donc chaque personne est finalement responsable de dire OK, on comprend le gros bon sens, il faut vraiment limiter nos contacts. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous? On parle pas de faire un rigodon, là, on parle pas de danse en ligne, mais est-ce qu'on peut par moment effectivement avoir un contact avec des gens qui en ont bien besoin, là?
Tout à fait. Il rentre dans la maison, on a un masque, on se tient loin, il s'assoit à un bout de la table, on s'assoit à l'autre bout de la table, on parle un peu, puis bonjour, bonsoir. Au moins, c'est entre le free-for-all puis le rigodon, comme vous dites, et le personne sort de chez lui et on parle à personne et on reçoit personne. Il y a un juste entre deux et c'est à chaque famille à décider qu'est-ce qu'ils vont faire.
Ben, je pense que c'est le cas. Puis le gouvernement, il y a vraiment une tâche en ce moment qui est extrêmement difficile. Comment garder la cohésion sociale? Comment avoir un message qui est clair, qui est simple, alors que la situation n'est pas simple? Alors que la situation exige beaucoup d'arbitrage par chacune des personnes autour de la table. Il y a des gens qui sont très malades, qui ont plein de comorbidités. Il y a des gens qui sont plus en santé. Il y a des gens qui vivent dans des RPA. Il y a des gens qui vivent dans des maisons individuelles. Des RPA, c'est les résidences pour personnes âgées. Donc, tout ça mis en compte, ça fait que chaque cas est un petit peu unique. Puis il faut garder le gros bon sens là-dedans. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que les Québécois ont répondu en majorité présent quand on leur disait ben il faut faire attention puis faut pas faire circuler le virus. Mes patients, ils m'en parlent là, dans le bureau. Là, ils font des changements sur leur Noël qui s'en vient. Ils vont pas faire les mêmes Noëls qu'avant en grande majorité. Puis dans certains cas, ils vont dire écoutez, oui, on va rencontrer la famille immédiate, mais on va les rencontrer dans un contexte justement avec des masques ou à bonne distance dehors. Il y a beaucoup de dans notre coin, on fait des feux des feux à l'extérieur, tu sais, des grands feux où est-ce que ça devient très très chaud, donc les gens sont à l'extérieur, sont à 2 mètres, puis il y a très très peu de possibilités de contagion là devant un feu de joie, disons.
Écoutez,
on peut brûler 2020.
Oui, on peut brûler 2020, c'est sûr. Je vous souhaite quand même un beau temps des fêtes et je vous remercie là, au nom de tout le monde, tous les travailleurs de la santé. Vous êtes extraordinaire. Vous travaillez comme des fous. Merci beaucoup, Dr. Simon-Pierre Landry. Merci.
Vous êtes très gentil. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.